RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Coup d'envoi des GG, bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bienvenue au 32-16 pour discuter, pour débattre. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Pour discuter, pour débattre aujourd'hui avec le médecin généraliste de Haute-Garonne, Jérôme Marty. Bonjour mon cher Jérôme.
Salut à tous.
Nous sommes avec Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie. Bonjour.
Bonjour à tous.
Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour Didier.
Salut Alain, bonjour à la France.
Il m'a fait un aveu tout à l'heure. Son train arrive désormais à l'heure et ça fait plusieurs semaines de suite.
Non, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas été en retard.
Donc tu vas présenter tes excuses à la SNCF.
Quelles excuses ? J'ai jamais dit à la SNCF que c'était des nuls quand ils étaient à l'heure. Non, je leur dis que quand ils sont pas à l'heure, que c'est des nuls. Mais là, du coup,
oui, mais les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais.
Eh ben, je le dis, ça fonctionne bien depuis plusieurs mois. Ça fait bientôt un an que j'ai pas été en retard.
Donc t'arrives ici
sérieusement. La dernière fois, c'était un gros retard. C'était en juillet, tu vois.
Est-ce que tu as une explication ?
Je pense qu'ils ont.
Comment expliques-tu non,
leur que
tu
sois à l'heure? Je suis sur la première ligne TGV créée, hein, le Paris-Lyon de 1981. Je pense qu'ils avaient besoin de faire des travaux, donc ils ont rallongé le temps de quelques minutes. Mais peut-être que les travaux portent leurs fruits.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les grandes gueules? Pas mal de sujets de discussion, bien sûr, avec vous au 32-16. Est-ce qu'on interdit les réseaux sociaux sur les portables aux ados jusqu'à 15 ans? Valérie Pécresse a-t-elle raison de suspendre les financements de la région Île-de-France à Sciences Po? Une association qui refuse de porter la flamme à Marseille, qui va arriver parce que c'est Coca-Cola qui est sponsor. Voilà, ça va être quelques-uns des thèmes que l'on va aborder avec nos GG, avec Jérôme, avec Didier, avec Barbara. D'abord, on va recommencer à s'intéresser à ce qui s'est passé à Châteauroux.
RMC, les grandes gueules.
Deux jours après les coups de couteau mortels qui ont entraîné la mort du jeune Mathis, le suspect, qui lui aussi est âgé de 15 ans, a été mis en examen hier, tout comme sa mère. L'adolescent, lui, a été placé en détention provisoire. La mère, elle, est sous contrôle judiciaire.
Oui, alors on n'en sait plus sur ce qui s'est passé. Selon les derniers éléments de l'enquête, Mathis et cet adolescent de nationalité afghane, en situation régulière, se connaissaient en fait. Ils avaient eu des mots, ils s'étaient insultés mutuellement. Et les dernières insultes n'ont pas plu au meurtrier présumé, peut-être assassin, puisqu'il y a sans doute préméditation, mais on verra jusqu'où va l'enquête. Donc il y avait une nouvelle altercation qui avait éclaté. Samedi dernier, le jeune Afghan de 15 ans affirme avoir reçu un coup de poing de la part de Mathis. Il a expliqué que, pris par la colère, il s'est rendu ensuite dans son immeuble pour se saisir d'une lame de couteau. Il a asséné plusieurs coups de couteau à la victime avant de s'enfuir. Sa mère était présente au moment des faits. Elle aurait frappé le jeune Mathis à terre. Elle a d'ailleurs été placée sous contrôle judiciaire. Alors, étonnamment, elle est en liberté. Son fils, lui, a été mis en prison. Auprès de nos confrères du Parisien, le frère du suspect développe également la version donc d'une bagarre. Mon frère n'a pas supporté d'avoir reçu des coups donnés par Mathis. Il a saigné du nez et cela l'a rendu fou. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule sur les réseaux sociaux. On entend ce jeune Afghan qui, avec son couteau entre les mains, cherche Mathis, se rend d'ailleurs devant son domicile. Alors c'est des petits immeubles HLM dans un quartier à Châteauroux et cherche donc vraiment à en découdre. Donc on voit bien que on n'est pas sur une bagarre et puis tout d'un coup je sors une lame et je plante. On est sur, il y a eu des histoires entre deux, mais lui, froidement, va chercher un couteau pour se venger. Et se venger, c'est-à-dire tuer Mathis. Tout cela arrive dans un contexte où il y a une réflexion sur la justice des mineurs. Alors, le problème, c'est que la justice des mineurs a été réformée récemment par Nicole Belloubet et le successeur Nicole Belloubet, Éric Dupond-Moretti. Donc, est-ce qu'il faut une nouvelle réforme des mineurs? Que fait-on, finalement, de ces mineurs assassins?
32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Barbara?
Oui, que fait-on de ces mineurs assassins? Bon, semaine après semaine, on égrène tous ces faits qui sont, pour certains, évidemment, âmes bienveillantes, n'est-ce pas? Des faits divers. Non, c'est pas du tout des faits divers. On voit bien surtout qu'on a une partie de la jeunesse qui a quelques problèmes avec non seulement la gestion de ses frustrations, la gestion de ses pulsions. Je crois que ce qui fait une société civilisée, c'est justement la gestion de ses pulsions, me semble-t-il, hein. Je crois que ça sert à ça, l'éducation. L'éducation familiale, l'instruction scolaire sert justement à apprendre à gérer nos frustrations, à gérer notre impulsivité. Nous avons tous de l'impulsivité en nous, mais nous avons appris, soit par nos parents. Alors apparemment, cette maman a eu quelques carences éducatives, nous allons dire, hein, puisque non seulement elle n'a pas appris apparemment à son fils à gérer ses frustrations, mais en plus elle l'accompagne. Évidemment, maintenant, elle raconte qu'elle ne faisait que le suivre, etc. Enfin bon, selon certains témoignages, à vérifier bien sûr, apparemment, elle a sans doute plus ou moins accompagné son fils dans sa volonté de vengeance, ce qui montre bien que nous avons affaire ici à un jeune qui n'a pas les codes, les mêmes codes de civilité que nous avons, que nous avons acquis par notre éducation ou que nous avons, qui nous ont été transmis par les valeurs que l'école et que la société française nous transmettent, c'est-à-dire que quand tu as une rixe en plus verbale, puisqu'apparemment il s'agissait que d'une petite rixe verbale qui s'est peut-être terminée par une petite gifle, eh bien tu réagis à la hauteur de ce que tu as subi, c'est-à-dire une rixe verbale, tu réponds verbalement, on t'a mis une claque, à la limite tu mets une claque, mais je crois pas, enfin à mon avis, hein, dans les codes de civilité que nous avons dans la société française, lorsqu'on t'insulte, tu ne réponds pas par des coups de couteau mortels. Je crois. Donc, apparemment, ce jeune homme a quelques difficultés. Donc, j'espère qu'il va rester là où il est, c'est-à-dire en prison pour de très nombreuses années.
Comme il est mineur, il sera condamné comme un adulte.
Et ben, c'est bien dommage.
Sauf si
c'est
le juge dommage, décide de lever l'excuse de minorité.
Oui, ben, moi, je lève l'excuse.
Tu ne peux pas la lever parce qu'il a 15 ans. Tu peux la lever qu'entre 16 ans et 18 ans.
Voilà. Et ben, donc, il n'aura pas l'excuse de minorité.
Ah, ben non, si vous pourrez prendre l'âge des faits.
Donc, ce qu'il aura, s'il aura une peine divisée par deux, parce que c'est ça en général.
Voilà. J'espère que la peine, elle sera divisée par deux, mais qu'il va la faire jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas de réduction de peine. Et puis ensuite, on peut éventuellement voir où il en est de son apprentissage des codes de notre civilité, et éventuellement, si ça ne convient pas, peut-être faut-il qu'il retourne en Afghanistan, puisque ça correspondra plus à son code de l'honneur.
Alors, il faut quand même préciser que la mère en question a plusieurs enfants, 5, la plupart sont placés d'ailleurs.
Ah, tiens.
Donc, visiblement, c'est une mère défaillante, qui était connue pour être très, très colérique, s'énervant très facilement, et elle a participé, au lieu de calmer son gamin, elle a participé finalement à ce règlement de compte.
Ah, en plus, ils sont placés avec l'argent du contribuable.
Et la mère est libre sous contrôle judiciaire. Ah,
bah. Comme le dit Barbara, quoi, c'est surtout un échec. Enfin, c'est même pas un échec, mais c'est le problème de la non-éducation, dans tous les sens du terme, quoi. Des gens, des gosses qui soient en rupture scolaire.
Est-ce qu'il y a un lien avec l'immigration, le fait qu'ils soient afghans?
Moi, je crois pas.
Ça explique.
Très franchement, je crois pas.
Moi, je trouve que c'est trop facile de
dire. Attends, Jérôme, après toi, dis.
Moi, je crois pas. Je crois que c'est un lien surtout avec la connerie, la bêtise crasse. Pour avoir vu la vidéo de ce gosse avec le couteau, Théma, passez-moi les termes, fils de pute, etc., qui le cherche, ça dure un petit moment quand même, hein, où il cherche l'autre gosse pour le planter, on a affaire à un débile profond, quoi. Mais vraiment, quoi. Et donc, si tu veux, à un moment, il y a cette problématique-là, quoi. Alors après, on nous dit, il faut lever l'excuse de minorité, etc., etc. Moi, je pense qu'à 15 ans, que tu risques 10 ans ou 20 ans, ça change rien. Oui. Quand t'es débile, ça change rien. Quand t'es violent, ça change rien. Par contre, qu'on agisse de suite, qu'on applique la loi de suite, sans délai, extrêmement fermement, avec les remises de peine que l'on ne met pas, parce que sinon...
Oui, mais tu vois, Jérôme, il avait été entendu par le juge très récemment pour deux vols avec couteau.
Il était mis en examen.
Il avait été mis en sous contrôle judiciaire parce que c'est la seule mesure qu'on peut prendre puisqu'il n'a que 15 ans, on pouvait pas l'enfermer à ce moment-là.
C'est là où, par contre, on doit changer, si tu veux, les process, la loi, etc. Qu'on arrête de remettre les gens dehors.
Si on l'avait peut-être enfermé à ce moment-là.
Quand ils sont convaincus comme ça de violence, pris avec un couteau. Par deux fois, il a essayé de voler un portable avec un couteau. Bah, donc, si tu veux, à un moment, quand même, là, tu t'appliques
la loi. Vu le pédigré de la famille, il aurait peut-être pu être mis en centre éducatif fermé rapido.
Oui, justement,
hein,
parce que le père était connu pour des faits d'alcoolisme, pour perturber la petite communauté, la copropriété. Ouais. Et les policiers avaient déjà signalé la dangerosité du gamin. Et avait dit, pardon, je dis gamin, mais il a 15 ans, de l'adolescent, et avait signalé justement au magistrat le fait qu'il pouvait glisser de plus en plus vers la violence.
Il n'y a pas de tuteur. Didier Giraud. Écoute, moi, plutôt que dégrainer la liste des faits divers et marquants qu'il y a tous les jours, parce que c'est tous les jours, je m'interroge quand même sur qu'est-ce qu'on peut y faire et les causes, quoi. Enfin, tu dis, Olivier, enfin, tu poses la question de savoir s'il y a un lien avec l'immigration.
Moi, je pense que
dans certaines cultures.
Barbara vient de le faire.
Dans certaines cultures qui ne sont pas les nôtres, l'échelle de la colère qui va jusqu'à la violence ou qui ne va pas jusqu'à la violence, elle n'est pas pareille dans toutes les cultures. Enfin, les Slaves, ils le disent. La violence physique fait partie de leur mode de conversation. Il y a des cultures où c'est différent. Ce point-là n'est jamais pris en compte quand on détecte quelqu'un qui a 13, 14, 15 ans, qui sert d'un couteau pour voler un portable, quoi. Ça veut dire quand même qu'il est dans une posture, dans une attitude où le couteau, c'est son quotidien, et donc il peut s'en servir. Voilà. Je pense qu'il faudrait quand même minorer ou majorer ce que tu... comment tu gères ces jeunes-là qui, en plus, fait aggravant, étaient dans un contexte familial haineux.
Quoi. Ouais.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des éléments qui font dire, dans ce cas-là, il y a des choses qui auraient pu être évitées, quoi. Le mec, le gamin, il est déjà passé entre les mains de la police, de la justice. Il a pour lui, il coche quand même plusieurs cases de risque potentiel de passer à l'acte, et puis il se passe rien, et du coup, il passe à l'acte, et il y a aujourd'hui un jeune qui a 15 ans qui est mort, quoi. Peut-être qu'il lui avait collé une tourte, mais il est mort, quoi.
C'est pire que ça.
Et je pense que ça, c'est quand même important, quoi.
Il est en cours. Il a été convaincu de violence pour avoir volé un portable, etc. Et l'affaire est en instruction puisqu'il a pas de casier. Ouais. Donc l'affaire est en instruction, ouais. Il est dehors.
Non mais
là où ça va pas.
C'est... Non mais c'est là où il y a peut-être un statut qui est nouveau à créer sur ces jeunes qui sont pénalement pas au niveau des adultes, mais qui présentent tous les risques pour passer à l'acte avant d'être majeur, quoi. Hein. Comment on les gère, quoi? Comment on les gère dans l'accompagnement social, mais comment on les gère aussi dans la judiciarisation, quoi? Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est trop facile de dire, il avait 15 ans, donc sa peine sera minorée. Enfin, quand tu l'as vu passer deux fois, trois fois, et puis que t'attends quoi, en fait, qu'il passe à l'acte? Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est à mettre en place. Enfin, je le dis toutes les semaines. Moi, c'est la première condamnation qui doit être exemplaire. Elle doit être immédiate.
Oui, voilà.
Immédiate, exemplaire.
On dit la même chose.
Et la réhabilitation de ces jeunes-là passe par le travail physique.
Ouais.
Je le dis et je le redis, le travail physique. Quand tu sues, tu penses pas à te battre, quoi. Hein. Et quand t'es fatigué de ta journée, tu vas pas traîner dans les rues jusqu'à 3h du matin.
Oui, mais alors,
quoi,
comme on va pas les renvoyer à la mine, Non, normalement, il faudrait les envoyer à l'école.
Est-ce que toi, tu serais partant? Parce que, oui, par exemple, Thierry Mariani était l'invité de BFM Story hier, il nous disait, ça me choquerait pas si on renvoyait ce jeune en Afghanistan.
Ah non,
mais on lui disait, oui, mais le problème, c'est que ces Afghans, ils arrivent avec un droit d'asile. Alors peut-être que les femmes afghanes, il faut mieux les garder parce qu'elles risquent gros. Est-ce que les jeunes Afghans risquent vraiment quelque chose à Kaboul?
Oui, enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, ce personnage a commis un grave trouble à l'ordre public. Il a apparemment un esprit pas très construit qui fait que son impulsivité le conduit pour rien du tout à aller planter quelqu'un. Moi, je suis désolée. Il y a déjà du monde ici. On a placé les frères, les sœurs, donc on entretient tout le monde. Si le père est alcoolique et que la mère impulsive, je ne sais pas si tout ce petit monde travaille. Donc, excusez-moi, je pense qu'à un moment donné, on peut éventuellement leur proposer de retourner voir si à Kaboul les choses se passent différemment, ou si un autre pays veut éventuellement les accueillir dans sa générosité, sa bienveillance, parce que la France me semble très généreuse. Maintenant, un autre problème qui est posé ici, c'est bien le problème de l'éducation. Encore une fois, on y revient inévitablement. Et là-dessus, on a des graves dysfonctionnements de la part de l'institution scolaire, de la part des services sociaux, parce que je suis désolée, cette famille qui doit être là depuis un certain temps, on voit que les enfants dysfonctionnent, la famille dysfonctionne. Qu'est-ce qui a été fait pour vraiment accompagner aussi ses parents?
On a placé les enfants, mais justement le problème du placement,
c'est qu'on voit très bien, et de nombreux pédopsychiatres te le diront, c'est que les enfants placés et les placements sont faits de telle façon que ça rend les gamins violents. Je suis d'accord, mais c'est pourquoi on a un vrai problème. On a un vrai problème des violences intrafamiliales.
Tu peux pas dire ça, Barbara.
J'ai même pas fini ma phrase. Déjà, tu me la laisses terminer.
Barbara, le meurtre qu'il y a eu là. Il vient pas d'un gosse qui a été placé.
Il vient d'un gosse qui a été mal éduqué.
Oui, mais l'État peut pas remplacer tous les parents.
Donc, si l'État ne peut pas, si apparemment nous avons une famille tellement dysfonctionnante que tous les gosses sont placés et que le dernier qui est entre les mains des parents, il plante quelqu'un. Alors, je suis désolée, il s'avère qu'en plus, ils ne sont pas français, qu'éventuellement le statut de réfugié peut leur être levé, et puis
on discutera avec Karim qui est en Seine-Saint-Denis.
Apparemment, les sans moyens.
Karim qui est en Seine-Saint-Denis et qui est éducateur, et ce qu'il va nous dire, c'est qu'il ne faut plus rien laisser passer. Et si on doit aménager la loi, eh bien aménageons la loi par rapport à ces mineurs, ce qui va nous dire Karim. Alors. Karim, il est éducateur. À tout de suite pour revenir sur ce qui s'est passé à Châteauroux.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules vous donnent la parole tous les jours et ensemble on revient sur ce qui s'est passé à Châteauroux, le meurtre, l'assassinat et après méditation de Mathis, 15 ans, par un autre adolescent de 15 ans. C'est Karim qui va en parler avec nous. Bonjour Karim.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour Karim, bienvenue. Alors qu'est-ce que vous en dites, vous l'éducateur, alors?
Alors j'en dis qu'il fut un temps où on ne parlerait que de prévention. Mais là, ça va trop loin. Il y a les utilisations de couteaux par les mineurs. Dans mon temps, quand j'avais une dizaine d'années, si on avait vraiment un souci, que ça risque à la bagarre, on était deux, on se battait, on se mettait des coups de poing et puis chacun rentrait chez soi. Là, il y a trop d'utilisation d'armes. C'est devenu très banalisé. Les réseaux sociaux sont pour beaucoup également. Donc non, moi je pense que là, la répression, il y a pas photo. Faut revoir les lois. Les mineurs assassinent, prémédité ou pas prémédité, casier, vierge ou pas vierge. Non, faut que là, ils soient cadrés, prison obligatoire. Après, ça n'empêche pas l'État de mettre en place des préventions. Là, quand vous avez, par exemple, moi, je ne vais pas dans le sens où il est de telle origine, il faut l'envoyer chez lui, ça peut arriver à n'importe qui, français de souche ou pas. Moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, quand vous avez des personnes qui arrivent, par exemple, là, comme là, de Kaboul, ou qui auraient pu arriver du Soudan ou autre, des pays en guerre, des gosses comme ça, ils ont été déjà à la base traumatisés. Quand ils arrivent, moi, je ne comprends pas que l'État ne mette pas en place des psys, des assistantes sociales et autres, avant de valider quoi que ce soit, voir si ces mômes-là, ils ont été approchés par la violence, ils ne sont pas eux-mêmes violents.
Ouais, mais du coup, Karim, vous le dites vous-même, ces gosses-là, ils ont grandi depuis tout petit dans la violence. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de différent dans l'échelle des valeurs, là où on met la violence par rapport à notre culture, à nous, quoi, hein?
Ah non, mais la violence aujourd'hui, ça aurait été une dizaine d'années, j'aurais été d'accord avec vous. Mais la violence aujourd'hui, c'est même plus une histoire de culture. Même en France, je suis désolé, moi j'ai 47 ans, je suis né en France, j'ai grandi en France, les armes, les couteaux, c'était pas possible de tuer quelqu'un. Tu as tué quelqu'un, c'était juste impensable, c'est que dans les films.
Bah, c'est bien que la différence, Karim, c'est qu'on a tous connu des bagarres entre ados, et parfois sur des trucs complètement absurdes entre ados à 15 ans, et ça part vite. Mais effectivement, là maintenant, ça se termine avec un coup de couteau mortel. C'est ça qui a changé.
Et c'est là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, ça s'est fini. Ça se finit toujours avec des couteaux ou même maintenant des armes à feu. C'est pour ça que je dis que la loi doit changer pour les mineurs parce que on ne doit plus laisser passer. Je suis désolé. Maintenant, il n'y a plus une histoire de gestion mineure, je suis protégé, je peux tuer. Oui, je le dis pourquoi? Parce que eux, ces mineurs-là, qu'ils soient d'origine autre ou de souche, ou français de souche, nous empêchent de bosser avec les autres qui veulent s'en sortir.
Ça vaut pour tout, dans tous les sujets. Hein. Voilà. C'est qu'une minorité empêche les autres de travailler et de vivre tranquille, ça.
Effectivement. Et quand vous avez un groupe avec lequel vous bossez et que dedans, il y a la pomme pourrie qui fait peur à tout le monde, je suis désolé. Soit il n'est pas meurtrier ou autre, on le met en centre d'éducation fermé.
Karim, vous, en tant qu'éducateur, j'imagine que vous travaillez depuis une vingtaine d'années dans ce métier ou plus, vous avez bien vu une évolution négative.
Eh bien, c'est pour ça que moi, vous m'aurez parlé il y a 10 ans, je vous aurais dit prévention. Aujourd'hui, j'ai dit tu vas en prison et fin d'histoire.
Le problème, c'est que ces constats, ils ont été faits. L'éducation nationale, ça fait 20 ans qu'on dit attention, ça se casse la binette. La police, attention, ça se casse la gueule. La justice, attention, ça se casse la gueule. La médecine, ça se casse la gueule. Les éducateurs, attention, c'est de pire en pire. Ça fait 15-20 ans. On a des politiques qui voient rien. Et là, maintenant, ça y est. Ils sont en train de réagir parce que la situation est devenue trop grave.
Oui, mais l'idée quand même, c'est de prévenir et d'éviter ce meurtre.
Prévenir.
Or,
gérer le problème avant
que maintenant, il faut guérir. Après,
les policiers qu'on interroge sur place disent qu'ils avaient repéré ce gamin qui était provocateur, qui avait un comportement déviant, qui était en train de s'enfoncer dans quelque chose. Il y avait ces deux vols au couteau. Donc, en fait, on est prévenu, on l'a repéré, on connaît la famille, puisque la moitié des enfants étaient placés.
On l'a en cours d'instruction, mais c'est en instruction.
On laisse le gamin plonger dans ses dérives jusqu'au meurtre.
Mais quand on dit il vaut mieux prévenir que guérir, aujourd'hui la France est malade de cette jeunesse qui a effectivement, et qui est une toute petite minorité, mais une minorité tellement donc, dangereuse malade, qu'elle finit par planter, etc. Non, donc il y a une maladie. Cette maladie, il faut d'abord la guérir. Et ensuite, effectivement, on remet une vraie politique de prévention et pour prévenir plutôt que guérir. Mais aujourd'hui, la situation est tellement grave. Et j'entends très bien, je veux juste terminer là-dessus. Moi, j'entends très bien ce que dit Karim, il a tout à fait raison. Que ce soit des Français qui sortent un couteau ou que ce soit un Afghan. Seulement, l'Afghan, en l'occurrence, on a un moyen qui, en plus, va nous permettre de ne pas l'avoir à l'entretenir toute sa vie durant, parce que, excusez-moi, mais apparemment, tout le monde dysfonctionne là-dedans, donc je pense que ça va être durable, le poids que vont peser ces gens sur la société, donc je suis désolée. Ceux-là, on a la possibilité de leur dire, écoutez, désolé, apparemment, la France n'est pas fait pour vous, au revoir. Je ne dis pas que les autres, il faut faire la même chose, et je ne dis pas non plus que c'est spécifique aux Afghans, mais il y a quand même un certain tropisme à l'usage de l'arme et de la manipulation. Du couteau dans certaines cultures, d'avoir été dans
les on a un meurtre fait sur le sol français par des Français, on le fout un tôle.
Bah oui.
La question, c'est est-ce qu'on a les structures aujourd'hui carcérales pour des gosses de 15 ans ?
Non,
on a des centres d'éducation fermés, mais on n'a pas de prison pour des enfants. Et d'autre part, où tu mets la frontière si c'est un gosse de 14 ans ou de 13 ans qui plante un autre gosse,
mais c'est jamais fini.
Ah bah pareil,
prison. Mais non, mais la question, c'est... je veux dire, au-delà des paroles, au-delà des paroles faciles, style, il y a qu'à les renvoyer chez eux.
À
un moment, il faut que l'on regarde tous, de façon posée, comment on fait pour avoir des centres carcéraux pour des enfants, pour des mineurs.
Oui, mais ça, il aurait fallu se réveiller il y a 10 ans déjà, se réveiller maintenant.
Une fois qu'on a dit ça.
Ah, ben je sais pas, moi, c'est pas moi qui suis au pouvoir depuis 10 ans.
On regarde devant, une fois qu'on a dit ça.
Ah, bah oui.
C'est tellement facile.
Non, c'est pas. Alors, excuse-moi, Jérôme, c'est pas une fois qu'on a dit ça.
Les gens parler aussi un peu de temps en temps.
Non,
c'est pas mal aussi les autres.
Non, toi aussi, tu fais des tunnels.
Quand tu dis.
Non, je sais pas,
quand tu dis, Barbara, la France est malade. Et que dans la même phrase, tu dis, c'est une infime minorité. Si c'est une infime minorité, la France n'est pas malade d'eux.
Si, elle est malade d'une minorité qui ne pourrit la vie.
Non.
Ah bah si, justement.
Parce que là, jouer sur les peurs,
jouer sur le
fait qu'il y en a partout, etc. Non, je suis désolé. Il y a une infime minorité et c'est justement
qui pourrit la vie de la majorité.
Et c'est parce que c'est une infime minorité que c'est d'autant plus grave et qu'il faut agir.
Alors, mais voilà. Donc, la France est malade d'une minorité qui pourrit la vie de la majorité.
Si c'est vraiment une minorité, elle est peut-être plus facile à traiter. Et quand t'as repéré que ce gamin-là, il est en train de dériver, il faut pas laisser le truc à l'instruction, il faut le traiter, quoi.
Je suis d'accord avec toi.
C'est toujours les minorités actives qui te renversent tout et qui te pourrissent un pays ou qui te pourrissent une société.
On va en parler. On va en parler avec Rémi. Rémi qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Rémi.
Oui, bonjour les GG.
Alors, et vous, qu'est-ce que vous en dites, Rémi, de cette
Moi, je pense que maintenant, il va falloir être sans pitié pour ces gens-là. Moi, j'ai 3 scénarios possibles en tête. Si c'est des gens régulés, enfin en tout cas qui sont de manière en France régulés en France, pour moi ce gamin de 15 ans il doit faire de la prison à vie. Après on construit des établissements, on se débrouille, il va falloir prendre un peu les choses en main. Second scénario, si c'est des gens étrangers sans papier, on renvoie tout ça au pays d'origine. Et moi, j'en ai un troisième. Si c'est des gens intégrés, on peut aussi changer la constitution, les déchoir de leur nationalité et les renvoyer chez eux.
Ah, bah ça.
C'est-à-dire quand ils n'ont plus de nationalité.
Alors, on n'a déjà même pas réussi à se mettre d'accord pour faire ça contre des djihadistes, alors que ça tombait sous le sens. Alors là, je ne vous dis pas, mon pauvre ami.
Je suis bien d'accord, mais il y a un moment donné.
Suivant les pays dont on parle, pour quelqu'un qui a tué, la sanction de renvoyer dans son pays, ce n'est pas une grosse sanction, quoi. Je veux dire, c'est pas une grosse sanction.
Mais au moins, il fera plus de mal.
La prison, longtemps,
ouais,
ça n'est plus une sanction la plus importante. Mais le reste,
Les impôts qui payent la prison à vie.
Attendez, retourner à Kaboul où il n'y aura pas les allocations.
Attendez, laissez finir Rémi. Allez-y.
La prison, moi, ce qui m'embête, c'est que c'est aux frais de la princesse. C'est mes impôts qui vont payer pour ces gens-là, quoi. Et ça, moi, j'en ai pas envie.
Exactement.
Oui.
Donc, voilà, non, ces gens-là, faut, au moment donné, là, pour moi, c'est de la vermine, il va falloir s'en débarrasser. Et surtout, maintenant, arrêter d'accueillir des gens qui, pour eux, dans leur pays, règlent leur compte à coups de machette. Nous, on n'est pas fait pour accueillir ces gens-là. Il y a des gens qui viennent de pays qui sont complètement, ils ont 200 ans de retard, pour moi. On n'est pas compatibles. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Donc il va falloir arrêter que la France attire ces gens-là. On sait pourquoi la France attire ces gens-là aussi. Hein.
Parce que quand vous êtes, vous, si a priori vous venez en France avec vos enfants, c'est pour leur offrir un avenir meilleur qu'en Afghanistan. On peut comprendre qu'on ait envie de fuir Kaboul et le régime des talibans pour venir s'installer en France.
La famille, on peut l'enfant intégrer alors.
Voilà, oui, c'est ça. La famille de Nadia Nadim, la footballeuse qui est devenue maintenant médecin, etc. Son père était un général de l'armée afghane avant l'arrivée des talibans. Il s'est fait tuer par les talibans. La mère de Nadia Nadim, elle a pris ses 5 filles. Elle a dit, allez, on s'enfuit vite, Pakistan. Hein, elle a fini par arriver au Danemark. Et ses filles se sont très bien intégrées. Sa fille est devenue une championne de football. Et elle est devenue ensuite médecin. Donc, la preuve que des parcours migratoires de réussite, parce qu'il y a une volonté, il y a une volonté d'éducation. Mmh. Excuse-moi, cette famille, elle est arrivée, elle dysfonctionne, les enfants, on les place, le dernier qui plante.
C'est là
donc, excuse-moi, ceux-là, ils sont pas adaptés.
C'est vrai
on retourne à Kaboul, c'est tout.
Là, les Français,
voilà.
On en a.
Ceux qui sont adaptés, ils restent ici, ceux qui sont pas adaptés.
On en a de la culture de l'excuse, voilà.
Oui, non,
mais ça, je suis là toujours de bonnes raisons pour expliquer. Mais pardon, on disait, comment doit réagir l'institution? Le problème, c'est que les institutions ferment les yeux. Là, on vient d'apprendre, par exemple, sur l'agression de Samara. Vous vous souvenez de Samara, cette collégienne qui était menacée parce que visiblement elle n'était pas habillée comme il fallait par d'autres collégiennes et on a mis en cause le collège qui n'aurait pas suffisamment protégé Samara, qui était donc attendue dans un guet-apens. Et ils l'ont laissé sortir, la mère est arrivée trop tard, et Samara s'est fait agresser, s'en est sortie très peu. Bah finalement, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, dit quoi? Dit le collège, pas de problème, il n'y a pas de négligence du collège.
Et ben voilà.
Donc voilà, fin de l'enquête.
Voilà.
Tout a été fait, il y a une enquête administrative. Les enseignants avaient aussi mis un peu la pression en menaçant de faire grève parce qu'ils n'avaient pas envie d'être accusés d'avoir mal agi. Donc finalement, Nicole Belloubet dit, il y a son rapport qui vient de tomber.
La force de l'institution.
Au vu des éléments qui étaient portés à leur connaissance, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire. De l'histoire.
En l'occurrence, sur l'affaire de Samara, le prof a fait son travail et même plus que son travail puisqu'il avait appelé la mère, c'est la vie scolaire qui a pas fait son travail et je ne comprends même pas
qui aurait dû garder sa mère en attendant que sa mère arrive.
Le prof a prévenu, la vie scolaire a été prévenue. Qui est le pion, l'AED, qui n'a pas été prévenu? Donc, il y a eu un dysfonctionnement dans la chaîne de communication au sein de la vie scolaire. Et je suis désolée, la vie scolaire aurait dû être sanctionnée.
Visiblement, l'enquête administrative ne relève pas de négligence.
Ça s'appelle pas de vague. Voilà. Ça vaut pour les profs comme pour les élèves, le pas de vague, je vais te dire.
Philippe, bonjour.
C'est bien notre drame.
Bonjour à vous tous.
Vous avez entendu le coup de gueule de Rémi, vous avez entendu aussi Karim il y a quelques minutes, l'éducateur. Et vous, qu'en dites-vous, Philippe des Yvelines, alors?
Alors moi, j'ai été prof pendant 45 ans. Je suis totalement abasourdi par cette ultra-violence là qui a lieu. Alors vous importez des gens qui viennent avec des mœurs absolument pas, une culture absolument pas compatible avec notre civilisation. Ça se passe mal, voilà. Moi, j'ai des collègues profs qui ont travaillé en Bretagne avec des Tchétchènes. C'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Des Afghans, c'est pas possible. Voilà, là où il y avait une bagarre entre deux ados français pour une broutille, maintenant, c'est des coups de couteau. Donc ça, c'est pas possible, voilà. Alors, il y a un endroit où on pouvait remettre de l'ordre il y a quelques années, c'était à l'école, quand on les avait assez jeunes. Sauf que maintenant, êtes sévère, alors là, c'est terminé. Votre chef d'établissement vous lâche, votre recteur vous lâche, tout le monde vous lâche, vous passez pour un type infréquentable, etc. Donc, c'est fini. Donc, si on les laisse faire, les mecs, ça devient des sauvages. Voilà, ils arrivent déjà avec des mœurs qui sont pas les nôtres, notre civilisation, c'est pas celle-là.
Pas une généralité.
Faites pas une généralité, regardez, au bout d'un moment, faut bien ouvrir les yeux, il y a quand même un problème. Avant, on intégrait, maintenant, on n'intègre plus. Maintenant, si tu viens, comme chez McDo, tu viens avec tes mœurs, et puis tu vis en France comme ça, c'est plus possible. Voilà. Il va falloir combien de drames? Voilà, je suis rarement d'accord à 100% avec Barbara, mais là, elle a entièrement raison. Demandez-lui comment ça se passe dans une classe. C'est l'enfer.
Voire même, ça va plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, un prof qui réagirait, il se met en danger vis-à-vis des parents.
Bien sûr, il a une cible dans le dos après. Voilà.
Bien sûr.
Alors, faut pas s'étonner de l'ultra-violence quand on les laisse faire. Si vous sanctionnez pas un moment et le plus jeune possible, c'est mort. Voilà. Et là, on a des sauvages, Philippe, en liberté.
Mais Philippe, vous êtes d'accord, c'est parce que aussi, on en arrive là aujourd'hui parce que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on a laissé faire. C'est-à-dire que.
Ça fait 40 ans, Barbara.
Oui, non, bien sûr. Non, mais. Moi, je suis d'accord avec vous.
Excusez-moi, mais bon, la gauche a une lourde responsabilité là-dedans. Excusez-moi.
C'est pas tant que la gauche a une lourde responsabilité, c'est surtout que la population s'est laissée. La population s'est laissée culpabiliser par la gauche et la droite, parce que je vais vous dire, Chirac aussi tenait des discours pas piqués des hannetons. Et si Chirac, il a été lucide sur la question du voile à l'école, c'est parce qu'il a été bien conseillé, mais sur d'autres sujets, Chirac, ça, c'était quand même un mou. Donc, c'est le problème de la société qui s'est laissée culpabiliser.
Je le dis à chaque fois et je le rappelle, il y a dans nos hôpitaux des médecins afghans, des médecins syriens, des médecins libyens, etc. et qui ont des parcours remarquables. Quoi. Donc il faut pas non plus tout le temps dire tout cela ne sont pas adaptés. C'est pas vrai. D'ailleurs, tu l'as dit. T'as parlé de
Nadia Nadine. Voilà. Oui. Donc, mais moi, je te dis,
il y a un problème d'échec, il y a un problème d'échec scolaire, il y a un problème il y a un problème d'intelligence, il y a un problème, voilà.
Ceux qui montrent une capacité à s'intégrer et éventuellement.
Déjà une volonté.
Voilà, volonté de s'intégrer. Capacité. Ils adoptent les codes de la nouvelle société dans laquelle ils sont. Il n'y a aucun problème pour moi. Moi, si je vais vivre à Kaboul, je vis sous une bâche, d'accord? Je reste à la maison et puis je vis à la mode talibane. Si ça me convient pas, j'y vis pas. C'est tout. Donc tu vis en France, tu vis à la mode française.
Imaginez Barbara Kaboul.
On n'a pas dit qu'il vivait à la mode de Kaboul.
Bah, excuse-moi, mais là, il vivait à une autre mode. C'est fini.
Mineur délinquant. Merci à Philippe d'avoir conclu notre discussion. Mineur délinquant, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'ils sont irrécupérables? Récupérables? Alors c'est récupérable, la question qu'on a posée. C'est un non à 85%, ils ne sont pas récupérables. Dans un instant, on s'en fout, on s'en fout pas. À tout de suite avec les GG.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC. RMC Story, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie. Et Jérôme Marty, médecin généraliste. Voilà nos trois grandes gueules qui vont participer au On s'en fout, on s'en fout pas. Il est 10h moins le quart.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour, Louis Gerbier.
Salut les GG, bonjour à tous. Alors le journaliste de Radio France, Jean-François Akili, a été remercié hier en raison notamment de ses liens avec Jordan Bardella. On lui reproche une collaboration avec le président du Rassemblement National pour l'écriture d'un livre. Or,
il n'a pas écrit.
Voilà, Jean-François Akili conteste cette collaboration. Pour la direction, les journalistes doivent suivre des règles déontologiques. Ces règles non respectées par le journaliste nous mettent dans l'obligation de réagir. Oh, on s'en fout, on s'en fout pas, Barbara Lefebvre.
On s'en fout pas.
Jérôme.
Non, on s'en fout pas.
Et Didier?
M'en fous complètement.
Eh ben Barbara, tiens, dis-nous ce que t'en penses.
Non, mais c'est extraordinaire, je les adore. À Radio France. C'est-à-dire que des journalistes qui n'ont même pas informé leur direction qu'ils allaient collaborer à l'aide à l'écriture ou à des discussions préparatoires à un livre, il y en a à l'appel. Monsieur Akili n'a rien fait, il a juste peut-être déjeuné avec monsieur Bardella comme le font tous les journalistes politiques. Un journaliste politique, ça déjeune avec toute la classe politique. Peut-être que dans cette conversation, Bardella a évoqué le fait qu'il allait écrire un livre. Peut-être que monsieur Akili, elle lui a peut-être dit deux, trois trucs du genre « Ah bon, ah, comment vous allez le structurer votre livre? Est-ce que vous savez déjà ?» Ça a dû s'arrêter, mais à ça. Mais madame Chemin en a fait tout un papier.
La journaliste du Monde. Ouais.
Qui d'ailleurs, maintenant, l'article n'est plus signé. D'ailleurs, quand maintenant il
d'ailleurs, c'est sur la base de ces articles qu'il est censé. Hein. C'est ça, dit ça, d'ailleurs
j'adore.
Dans le communiqué.
C'est ça qui est merveilleux.
Le Monde, Libération,
c'est
je crois
merveilleux.
Que
ça s'appelle.
Ils appartiennent tous au même
groupe. Vérifier les sources.
Ah ben, le Monde et l'Arma appartiennent au même groupe.
Non, mais ça s'appelle 17 septembre 1793. Ça s'appelle la loi des suspects. Hein, tout ennemi de la liberté doit être guillotiné. Donc voilà. Ce pauvre monsieur Akili qui faisait son travail correctement, qui était un journaliste honnête. Moi, j'écoutais les informés, je trouvais que c'était très bien.
Il n'y en a pas.
Il était assez équilibré dans sa façon de présenter les choses. Eh ben voilà, c'est lui qui disparaît de l'antenne. Je dis vraiment bravo France Info. Franchement,
non, mais
je suis
effaré. L'école supérieure de journalistes vient de placer tous ses étudiants en journalisme parce que là, on va faire partir 90% des journalistes, en gros. Parce qu'il y a des journalistes qui n'ont pas écrit des bouquins ou qui n'ont pas servi de plume à des politiques, etc. Surtout. Des journalistes politiques, mais je veux dire, c'est une palanquée.
Ça veut dire que peut-être que Bardella, c'est plus grave.
C'est ça que ça veut dire. Hein.
Je croyais qu'il s'en foutait.
Non, mais surtout qu'il n'a même pas écrit le livre.
Non, mais en l'occurrence, il n'a même pas écrit. Le vrai truc, c'est qu'en fait, le bouquin, il n'est pas sorti.
Non, il y a eu un échange.
Il y a eu un
échange entre les deux. Et puis on lui reproche aussi.
Mais enfin, des journalistes qui mangent avec des politiques ou trucs.
On lui reproche aussi d'avoir participé à une réunion à la Baule avec un cercle de réflexion.
Mon Dieu.
Alors, il a dit oui, j'y ai participé, mais j'avais déposé la demande qui a été validée par la direction de Radio France et on dit que j'ai été rémunéré. Or, c'est faux, j'ai pas été rémunéré, ce que confirme aussi le festival auquel il a
participé. Ça ressemble
pas. Il n'a pas été rémunéré.
Ça s'appelle la chasse aux
non, mais Jean-François Akili, il faut dire que nous, on le connaît bien avec Alain, puisqu'il a été le directeur de la rédaction d'RMC. Oui, donc, c'est quelqu'un qu'on a fréquenté ici, ça a été un collègue de travail. C'est un très bon journaliste, Jean-François. Il l'a montré dans le passé. C'est lui qui était d'ailleurs l'auteur du scoop Jérôme Cahuzac sur RMC, puisque Jérôme Cahuzac sur RMC BFM TV avait réagi pour la première fois à cette affaire. Et moi, je pense que ça ressemble plutôt à un règlement de compte. C'est-à-dire que c'est un prétexte pour se débarrasser de lui. Alors, pourquoi la direction de Radio France veut se débarrasser de lui? Alors, ça, c'est l'histoire interne. Mais je pense qu'on se sert de quelque chose qui ressemble pas. Alors, dans ce cas-là, Laurent Geoffrin, qui écrivait les discours de François Hollande et, voilà. qui a dirigé Libération. Enfin, je veux dire, on peut citer, il y a 50 exemples dans, et tous ceux qui travaillent dans ce métier depuis 20 ou 30 ans pourraient vous citer 50 exemples de journalistes politiques qui ont écrit avec des politiques. Alors, Bertrand, pas forcément parce que c'était des militants.
Quand ils dorment pas dans le même lit.
C'était pour accoucher de leur, voilà, de, c'était pour les aider.
C'est pour les aider. Alors, on enchaîne.
Voilà, mais ça ressemble à un règlement de compte.
Eh ben, on espère que Monsieur Akili va vite retrouver du travail. Et pourquoi ne reviendrait-il pas à RMC, BFM, le groupe le...
Pourquoi pas,
ben voilà. On enchaîne. Alain, toi, t'avais écrit 5 bonnes raisons de vivre sur la Lune avec Jacques Cheminade.
Et oui, ça avait, c'est vrai.
Ça
avait jamais...
Ça n'a pas été licencié.
Et ça, c'était très, très
bonne,
bien rendu.
Très, très, très bonne, bien rendu.
Et l'art du barbecue avec Fabien Roussel aussi.
Allez, on enchaîne.
Ça, c'est moi.
Tiens, Barbara, c'est toi qui est concernée sur cette news. L'A13, l'autoroute A13 fermée jusqu'à mi-mai. Une réouverture partielle envisagée le 11 mai dans le sens Provence-Paris. Et alors, le petit bonbon, c'est la cause de cette fissure. Ce serait donc le mise en cause serait le chantier du musée du grand siècle de Saint-Cloud, à l'origine des fissures à cause des travaux. Et la direction des routes d'Île-de-France et de la préfecture des Hauts-de-Seine serait donc le propre coupable si l'autoroute est fissurée. On s'en fout pas, Jérôme?
Non, on s'en fout pas.
Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Et Didier?
On s'en fout pas.
Bah tiens, Didier, tu...
Je suis pas un spécialiste grand chef chez Colas, mais j'ai quand même du mal à comprendre comment un parking VIP qui fait 13 par 13... peut créer des fissures de 80 cm de profond sur l'autoroute. Toi, j'ai du mal à. Il y aurait un petit règlement de compte politique là-dessous que je serais pas inquiet, quoi.
Non, parce que c'est collé, en fait. Si t'as vu le schéma, c'est ouais, bon, dans la presse. En fait, le chantier est collé à l'autoroute, à cette portion de l'autoroute.
Oui, tu le vois
bien l'entendre.
Tu
le vois bien l'entendre. Le parking, c'est un truc d'une envergure.
Non, mais c'est le trou qui fait des fissures.
Non, mais
c'est le trou qui fait
des fissures sur un kilomètre de long.
Oui, mais ils ont fait un trou, si tu veux, assez profond et ça a déstabilisé le voyage.
Oui, c'est ça.
Non, tu peux faire un trou qui te semble anecdotique, mais avec un écoulement de terrain, avec des pluies, avec un contexte de aussi peut-être, parce que oui, là, ils essaient aussi de nous faire croire qu'il n'y avait pas de problème d'infrastructure, mais peut-être qu'il y avait déjà une petite fragilité. Tout ça accumulé, ça te fait. Voilà. Non, mais à mon avis,
La fragilité, elle existait, quoi. C'est pas la taille du trou qui fait des fissures comme ça.
Cette autoroute, il y a toujours des trous dans la chaussée. Il y a toujours
parce que c'est l'autoroute qui est gérée par l'État.
C'est une autoroute hyper, hyper fréquentée.
La question, c'est le coordonnateur des travaux, quoi. Parce que normalement, tu sais vérifier tout ça avant.
Ben oui.
Mais
oui,
moi, je dis même.
Qu'est-ce qu'il y avait avant le
temps. Non, mais c'est une autoroute. Moi, en tout cas, pour la prendre, je la prends pas souvent pour descendre parce qu'il y a trop de monde le matin, mais pour rentrer, ça me permet de rentrer plus vite. Il y a tout le temps des trous dans la chaussée. Une semaine, tu l'as à cet endroit-là. La semaine d'après, tu l'as à un autre endroit. Donc, c'est une route très empruntée, à mon sens, mal entretenue. Mais par ailleurs, je ne crois pas du tout au 11 mai. Je pense que ça va durer encore beaucoup plus. Et le problème, c'est la saturation des axes secondaires. Moi, ce matin, j'ai fait un petit tour dans la forêt de Meudon. Je mets maintenant plus d'une heure pour venir. Je suis obligée de venir en voiture parce que mon problème, c'est mon RERC et qu'après, je vais travailler. Et donc, je suis pas sûre de rentrer. Donc, du coup, je suis obligée de prendre la voiture. Et les axes secondaires, ça va pas du tout.
Justement, ce que j'aimerais savoir dans ce genre d'événement, c'est les retombées économiques. Parce que les retards engendrés, quand tu les multiplies par les millions de personnes qui font des allers-retours, à combien ça coûte au pays? Ça serait intéressant.
Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on attend le 11 mai. Enfin, minimum, hein, parce que en fait, au début, c'était le 1er mai, ensuite, ça devait être cette semaine, maintenant, c'est le 11 mai.
La 15, ça a duré 10 mois.
Uniquement dans le sens de circulation. Effectivement, la 15, ceux qui s'en souviennent, c'était en 2018, je crois, ça a duré 10 mois, ça a été un cauchemar. Je comprends pas pourquoi on peut pas aller plus vite. Est-ce que il y a des chantiers qui doivent être prioritaires?
On continue.
Le 11 mai, ça fait encore 15 jours minimum. Ouais, ça...
Et encore le 11 mai, on
sait rien. Plus gros actes,
tu mets des mecs qui font les 3-8 et puis la route, tu la refais.
Voilà. C'est ça, je comprends pas pourquoi autant de temps. Mais
peut-être organiser un semi-marathon sur l'autoroute d'ici là. Enfin, la part cumulée, Didier, des agriculteurs et des ouvriers a diminué de près de moitié en 40 ans. C'est ce qu'énonce une étude de l'INSEE.
Ça t'étonne?
Par exemple, je te donne quelques chiffres. En 1982, les agriculteurs représentaient 7,5% des personnes en emploi. Savez-vous quel est le pourcentage de nos jours?
3.
C'est moins. Bonne réponse de Jérôme Marty.
Deux tourons.
ouais, deux tourons. Pour les ouvriers, on est passé de 29,9 en 82 à 18,9. En revanche, c'est l'explosion des cadres. Les cadres en 82 représentaient 8% de la population en emploi. Aujourd'hui, c'est 21,7%. En cause, évidemment, l'élévation du niveau de qualification et la tertiarisation de l'économie. On s'en fout pas, Didier Giraud.
Bah non, on s'en fout pas.
Barbara Lefebvre.
On s'en fout pas, mais je laisserai Didier.
Jérôme Martin.
Non, on s'en fout pas.
Didier, explique-nous pourquoi.
Tu viens de mettre en évidence que des métiers peu attractifs, il y a de moins en moins de monde, et des métiers plus attractifs, il y a de plus en plus de monde. Après, derrière ça, je pense qu'il y a un vrai choix de société qui est fait dans les années entre 70 et 80. Quand à un moment donné, tu t'abandonnes l'industrie, t'abandonnes le secteur primaire, tu deviens une société de loisirs, une société tournée vers le tertiaire, t'expliques à l'éducation nationale qu'il faut emmener toute une classe d'âge au bac. Ce changement, il se fait à ce moment-là, quoi. Hein. Il se fait à ce moment-là, quand tout le monde doit avoir le bac, et ben, quand t'as le bac et puis que t'as fait un bac plus 4, on t'explique que tu peux pas aller travailler sur une chaîne pour visser les boulons ou te mettre à quatre pattes pour désherber des fraises, quoi. Voilà. On t'explique qu'il faut que tu demandes 2 700 € net de salaire à ton premier emploi, même si tu sais rien faire, même si t'es une brêle, et puis au plus vite, t'essaies d'avoir le statut de cadre. Voilà. Notre société, là, fait un choix d'abandonner le secteur primaire au profit du secteur tertiaire, et aujourd'hui, on est en train d'en subir, enfin, je dirais pas d'en subir des conséquences, d'en récolter les fruits, quoi.
C'est pour ça que j'ai hâte, après avoir sacrifié les paysans, on n'a rien dit, avoir sacrifié les ouvriers, on n'a rien dit... Quand l'intelligence artificielle va nous laminer les petits cols blancs, alors là, on va aller voir les cols blancs qui n'ont rien dit pour les paysans, qui n'ont rien dit pour les ouvriers. Quand ça va leur tomber sur la tronche et que la moitié des métiers, des soi-disant managers, parce que, excuse-moi, un cadre et manager, bon, il y en a certains, c'est de la flûte, hein, ça fait 3 slides et ça te dit que c'est manager, et 3 reporting et 3-4 mots en anglais et ça croit que c'est manager. Voilà. Et ben, quand ceux-là, ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle, on va bien se marrer. Et c'est les métiers, les vrais métiers de la main, les vrais métiers de l'humain, c'est ceux-là qui resteront.
Il faudra reformer parce qu'on en aura pas assez.
Barbara, il y a aujourd'hui des métiers très manuels, très salissants, où les patrons ils sont obligés de mettre du pognon sur la table pour.
Les gens qui ont un métier d'utilité sociale, le travail de la main, l'intelligence de la main et le travail du care, le travail de l'humain, quand tout ça sera vraiment bien payé, on verra. Non, mais bon,
dans un instant, avec les GG. Avec les grandes gueules, cette association écologiste qui refuse de porter la flamme à Marseille parce que Coca-Cola est sponsor et elle trouve trop de canettes de Coca du côté des calanques de Marseille, donc elle refuse d'être associée à l'arrivée de la flamme à Marseille. Et puis le cas Gérard Depardieu, convoqué par la justice, voilà ce qui va faire parler les GG, parler les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.